France Culture.
Les nuits de France Culture. Les nuits de France Culture, une mémoire radiophonique.
En 1994, le journal Le Monde était à l'orée de ses années de grands chambardements économiques et éditoriaux. Éditorialiste et médiateur de ce journal, André Laurence, qui en avait été le directeur entre 1982 et 1985, était l'invité de Francesca Piolo dans Correspondance. Alors que le quotidien, qu'il allait bientôt quitter, tirait à plus de 450 000 exemplaires, il y présentait les changements de forme et de contenu que les lecteurs du Monde allaient découvrir quelques semaines plus tard et évoquait les multiples causes d'une crise de la presse quotidienne à laquelle le Monde entendait survivre en innovant. Une émission à laquelle participaient les voix francophones des radios belges, suisses et québécoises qui rapportaient ce qu'était la notoriété et la réputation du Monde dans leur pays et rendaient compte du visage pris chez eux par une crise de la presse qui ne semblait pas connaître de frontières. Correspondance avec André Laurence, une émission diffusée le 21 décembre 1994 sur France Culture.
Correspondance. Correspondance suisse, belge, québécoise et française. Une émission de la Communauté des radios publiques de langue française. À Genève, Martine Béguin. À Québec, Bernard Gilbert. À Bruxelles, Philippe De Wolf. À Paris, Francesca Piolo. Une émission réalisée par Olivier Coppin. À l'heure où un certain nombre de titres de la presse écrite fêtent leurs 50 ans, soufflent leurs bougies, nous, pour ces correspondances, nous nous poserons la question de l'avenir de la presse écrite. On aurait pu même élargir le sujet à l'avenir de l'écrit. Mais avec André Laurence, qui est avec nous, journaliste, médiateur au Monde, ancien directeur du Monde. Si je récapitule un peu, en 53, vous êtes journaliste au quotidien L'Éclaireur Méridional. 69-82, vous êtes chef adjoint du service politique du Monde. Puis ensuite, président de la Société des rédacteurs du Monde. Enfin, directeur du Monde, démissionnaire, éditorialiste et médiateur. Voilà. C'est très rapide pour une grande vie quand même, hein, ce tableau-là. Nous essaierons de voir où en est le Monde, puisque je pense qu'en francophonie, chez vous, Belgique, Suisse et Québec, on lit le Monde, on le trouve, et c'est un journal qui vous est familier, Philippe De Wolf.
Ah, écoutez, personnellement, je lis très régulièrement le Monde. Alors, moi, ça me fait problème parce que ce Monde commence à encombrer mon appartement, et quand ce n'est plus mon appartement, c'est ma cave, parce que le Monde est le quotidien type que vraiment je n'ose à titre personnel pas utiliser pour les épluchures et les restes de cuisine.
Au Québec.
Oui, ben, Le Monde est une référence chez nous, comme il est un peu partout, sûrement dans le monde francophone et ailleurs. On le lit peut-être moins qu'en Europe, mais il est lu sûrement par une classe de la population qui s'intéresse aux choses de la politique et au monde en mouvement, quoi.
On parlera justement de cette population qui s'intéresse au Monde en Suisse aussi. Vous êtes des gens qui fréquentaient le Monde.
Bien sûr, il s'agit aussi d'une classe de population particulière, mais toutes les personnes qui s'intéressent de surcroît aux médias et à la presse sont absolument passionnées par le journal Le Monde et jaloux parfois du nombre de correspondants, du nombre de collaborateurs que détient ce journal.
André Laurent, si on reprend un petit peu l'historique du Monde, alors 19 décembre 1944, fondation du Monde, sortie du Monde, parution, Hubert Boeuf-Méry à sa tête, une idée, c'est une idée du général de Gaulle.
Oui.
Hein, qui voulait qu'on lui refasse Le Temps, journal qui s'était sabordé en 1942. Donc on lui dit non.
Qui avait en fait été interdit de reparaître après la guerre parce qu'il ne s'était pas précisément sabordé à temps.
Alors, comme c'était
et le général de Gaulle voulait que la France dispose d'un journal de prestige qui était Le Temps avant la guerre. Et donc le Monde a pris cette succession au moins au niveau du prestige.
Il faut absolument, disait le général de Gaulle, que vous me fassiez reparaître Le Temps, appelez-le comme vous voulez, appelez-le Le Monde. Voilà ce qu'il lançait. Alors Boeuf Méry, qui vient de l'école des cadres du Riage, s'installe pour cette sorte de monastère de l'information, ce journal qui a réputation quand même de grande sobriété, de grande rigueur. Si on regarde le rituel du Monde, ce rituel par exemple du comité de rédaction le matin, vous avez des souvenirs, André Laurence, de ce comité de rédaction? Vous y assistez toujours?
Oui, certes, non, je n'y assiste pas en ce moment, mais...
Depuis 50 ans, c'est la même réunion.
C'est la même réunion qui a été ritualisée, je crois, un peu à dessein, mais qui avait une fonction principale d'évaluer l'architecture du journal le plus rapidement possible. Et c'est la raison pour laquelle les participants, qui étaient la hiérarchie du journal, de la rédaction en tout cas, étaient debout, de telle sorte qu'ils ne s'enfoncent pas dans des fauteuils pour partir dans des digressions qui nous auraient fait perdre du temps, puisque le journal se fait contre la montre en quelques heures de la matinée.
Alors cette réunion sans commentaire politico-philosophique?
Oui, c'est une réunion en fait d'annonce de ce que différents services se proposent de mettre dans le journal. Donc il n'y a pas beaucoup de considérations, ce sont des professionnels qui parlent entre eux et qui emploient un langage assez codé, de telle sorte que lorsque des gens assistent à cette conférence, par curiosité, ils ne comprennent pas toujours ce qu'il s'y dit, mais je crois que c'est le lot de toutes les rédactions.
Un exemple type très rapidement de langage codé qui nous sera assez parlant, j'espère.
Eh bien, par exemple, le chef du service politique pourrait se contenter de dire ce matin, tapis, trois cols.
Traduisez donc.
Je traduis l'intervention de M. Tapis dans la télévision se traduira par trois colonnes dans le journal avec des extraits, des réactions. Et tout se fait un peu comme cela, hein, ça va très très
ce
vite.
Ce qui permet de dire au rédacteur en chef, vous voulez 100 colonnes, je n'en ai que 25.
Voilà, oui, c'est toujours
la grande bagarre, c'est autour.
L'objet essentiel de cette première conférence est un marchandage sur la répartition des colonnes à l'intérieur du journal.
Il y a eu tout un temps, André Laurence, où les journalistes du Monde étaient réputés pour la petitesse de leur salaire. C'était des gens, finalement, qui n'étaient pas bien payés. On raconte que lorsque certains arrivaient le matin, ils disaient « Quelles sont les nouvelles de la fameur ?» pour parler de leur directeur. Hein, et on les encourageait vivement à travailler ailleurs. Donc certains collaboraient à la radio, par exemple.
Oui, bien sûr, ou dans d'autres journaux.
Ou dans d'autres journaux, vous, c'est ce que vous avez fait, vous avez collaboré dans d'autres journaux.
Dans d'autres journaux de province, oui. Il faut savoir que Le Monde était à l'origine un journal très pauvre, qu'il a continué de vivre sous forme... une sorte de coopérative, en fait, sans apport de capitaux. Ça a été sa faiblesse structurelle, le manque de fonds propres, et dont les rédacteurs étaient soumis à un régime austère, très mal payés. Ils ont été un peu mieux payés par la suite, mais maintenant encore, le Monde n'est sûrement pas le journal qui, sur la place, paie le mieux ses collaborateurs.
Alors son format, il le doit d'abord à la pénurie de papier 1945. On plie en deux, puis on plie en quatre, puis on plie en huit, et on augmente les pages.
La pagination, oui.
Pardon. Et il garde les caractères gothiques, par exemple, pendant longtemps du temps.
Oui, il garde le caractère gothique du titre, hein,
qui était celui
du temps. La présentation générale, qui était assez simple et austère, c'est-à-dire un alignement de colonnes un peu grise, et aussi la priorité au texte, ce qui exclut pratiquement la photo, toutes sortes d'illustrations de ce genre. Donc c'est un choix à la fois qui tenait compte des contraintes de l'époque, le manque de papier, mais qui correspondait aussi à la volonté de privilégier l'écrit, le texte par rapport à toute autre information visuelle.
La photo pouvant faire son apparition pour la publicité.
Alors, elle pouvait faire son apparition pour la publicité. Elle l'a fait aussi dans des suppléments, à titre vraiment d'illustration, pas tellement de photos d'actualité, pratiquement jamais. Ce qui est apparu le plus nettement en matière d'iconographie, c'est le dessin humoristique. Et nous avons désormais des dessinateurs humoristiques, dont un, et en France, occupe une place très particulière. Je parle de Plantu.
On l'a vu ici. Alors, la critique de Duclos, c'était que ce journal, disait-il, était un féodé au patronat. Vous qui avez beaucoup écrit sur le pouvoir, autour du pouvoir et autour des passions françaises, André Laurence, est-ce que vous avez cette impression, comme ça, d'une manière, pour le Monde, d'être acoquiné au pouvoir, ou au patronat, du moins ?
Sûrement pas, non. Je pense que Jacques Duclos traduisait là une analyse marxiste un peu rudimentaire qui faisait du Monde, dans la mesure où ce n'était pas un journal marxiste, un suppôt de la bourgeoisie. Mais on peut vérifier que comme entreprise capitaliste, entre guillemets, le Monde précisément ne l'est pas beaucoup, peut-être pas assez d'ailleurs. Donc le grand patronat n'a pas de prise en tant qu'actionnaire à l'intérieur du Monde. C'est très marginal. Et que le Monde s'est plutôt distingué tout au long de sa carrière par une attitude d'opposition à l'égard du pouvoir en place, plutôt que par de la complaisance.
Qui sont les lecteurs du Monde ?
Alors les lecteurs du Monde sont la part de la population française que l'on pourrait définir globalement comme l'encadrement. Les gens qui jouent un rôle actif dans la société à divers niveaux. Alors ça passe par les cadres du service, du secteur privé, de la fonction publique, les enseignants, tous les gens qui ont un niveau scolaire, universitaire assez élevé. Le lectorat du Monde se recrute dans ça. Alors ils savent lire, bien sûr, et ils savent écrire, et ils écrivent beaucoup d'ailleurs, au journal.
Alors pourquoi est-ce qu'on lit le Monde ?
On lit le Monde...
À votre avis, vous qui, par exemple, épluchez ce courrier des lecteurs...
Je crois qu'on lit le Monde pour ce qu'il offre, pour être informé. Le Monde se caractérise par quoi ? Par les choix.
Informé, plutôt formé qu'informé, je dirais.
Oui, formé et informé, parce que précisément, il a décidé de s'intéresser à une information qui concerne la vie politique, internationale, nationale, la vie économique, la vie culturelle, mais qui exclut quand même tout ce qui est du sensationnel, du sentimental. Oui. Donc il y a très peu de faits divers, au sens où les faits divers peuvent faire battre les cœurs. Ce sont des choix délibérés. C'est le journal français qui fait le plus de place à l'information venant de l'étranger, qui a le plus de correspondants à l'étranger. Et c'est donc un parti pris de sérieux, d'informations plutôt nobles, hein, au sens où ces secteurs sont supposés être nobles, la politique, l'économie, le culturel, par rapport à d'autres qui sont plus distractifs.
Et dans ce monde, dit monde du déclin des idéologies, est-ce que la place du Monde, justement, ce n'est pas d'offrir un lieu de débat, un lieu d'école de la pensée ?
Alors il est certain que le Monde a été et reste un des lieux de débat principaux en France, du débat politique, mais même du débat culturel. C'est le journal où les intellectuels, spécificité très française, s'expriment volontiers. Et, il est vrai aussi que le Monde, dans la mesure où il peut se permettre de faire des articles non seulement sérieux, mais avec la longueur nécessaire et parfois l'austérité nécessaire, est vécu souvent comme une sorte d'institution un peu universitaire et par là donc formatrice. On lit le Monde pour apprendre sur son temps, pour se former. Longtemps, c'est un journal qui a été recommandé par les professeurs à tous les niveaux, à leurs élèves. Et il a accompagné d'une certaine manière toute le grand mouvement d'éducation en France. Hein.
Quel tirage pour le Monde aujourd'hui ?
450 000 en moyenne.
450 000. Alors vous avez éprouvé le besoin de changer ce monde. Avant de regarder ce que vous allez faire, ce que le Monde va devenir, je vous propose d'aller faire un tour du côté de la presse belge. Philippe de Wolf.
Eh bien, je vous dirais que le quotidien qui a la tenue rédactionnelle la plus proche du Monde en Belgique francophone est incontestablement la Libre Belgique, même si je vais peut-être faire de la peine à mes confrères du Soir. La Libre Belgique qui, comme vous le savez, est un peu l'expression des valeurs démocrates chrétiennes et par moments catholiques. Alors, je dis cela parce que, en pensant au Monde, eh bien, je pense à un journal qui est une sorte de référence absolue en matière de probité. Je pense aussi au sérieux, à ce caractère hérité peut-être du journal Le Temps, à savoir que son rédacteur en chef, ou du moins un de ses dirigeants, avait conseillé à ses journalistes de faire emmerdant, et que c'était là peut-être le signe du sérieux ou de la tenue de ce journal qui a été hérité par Le Monde. Je pense aussi au fait qu'on peut passer sa journée à lire Le Monde, et ma foi, je ne sais pas si André Laurence a le temps d'éplucher précisément son propre journal jusqu'au dernier carat.
On lui pose la question ?
Si je suis tout à fait honnête, je vous dirais que non, sûrement pas. Je n'ai pas le temps de lire Le Monde dans son ensemble. Mais je ne suis pas sûr que ce soit indispensable. Je pense que le charme du Monde, c'est que par rapport à d'autres journaux réduits ou réducteurs et imposés, le charme du Monde, c'est qu'on peut faire son journal dans le journal et selon le temps disponible que l'on a.
Pour le Québec, la presse écrite.
La presse écrite au Québec, je dirais qu'elle vit un petit peu ce que vit la presse écrite aux États-Unis. Et je référais à une dépêche trouvée en novembre dans Le Devoir qui dit ceci. La diffusion des principaux quotidiens américains a continué à baisser au cours des 6 derniers mois, selon l'organisme professionnel suivant l'évolution des tirages. Ainsi, on parle d'un déclin constaté entre avril et septembre, en moyenne de 2 à 3 % pour les plus gros quotidiens. Le record étant encaissé par Newsday qui accusait une baisse des ventes de 7,26 % pendant cette période. Il est certain qu'ici, au Québec, l'arrivée de la radio, de la télé ensuite, et avec plus de force encore, ont réduit l'intérêt pour la presse écrite. Qui plus est, les médias écrits, comme le reste du système, se sont convertis à l'économisme. Donc, les quotidiens rentables, monétairement, s'entend sur des entreprises de presse intégrées dans des holdings, moins des médias d'information ou d'opinion. Il y a un quotidien qui se maintient à travers le mêlé, je dirais, au plan du contenu. Il s'agit du Devoir, bien sûr, qui pourrait être un peu notre équivalent du Monde. Mais un petit peu, comme le disait M. Laurence tout à l'heure, par rapport aux salaires et aux conditions de travail des employés du Monde, il est aberrant de constater que le Devoir est fondamentalement endetté et le sera probablement pour encore plusieurs années. Le Devoir célébrera son 85e anniversaire, non pas lui le 10 décembre, mais le 10 janvier.
Est-ce que vous pensez, vous, André Laurence, qu'il y a une crise de la presse écrite en France?
Oh, certainement, oui.
Oui.
Depuis 2 ans, la lecture a baissé pour tous les journaux. Tous les journaux enregistrent des baisses de lecteurs, tous les journaux nationaux en tout cas. Et que c'est un vrai problème qui a sûrement plusieurs causes. La crise économique déjà, par elle-même, le fait que les journaux coûtent cher en France. Que pour un budget étudiant, par exemple, l'achat quotidien du Monde est assez lourd. Et aussi le fait qu'il y a une désaffection à l'égard du débat politique et idéologique et que le Monde, qui en est l'outil par excellence, ressent les effets de cette désaffection aussi.
Est-ce qu'il y a eu des créations de journaux? Est-ce qu'il y a eu des créations en France?
L'évolution de la presse française se caractérise par, du point de vue de la presse écrite, par l'abandon de la presse populaire au média dominant qui est la télévision et les quelques tentatives avortées ou réussies qui ont eu lieu depuis une trentaine d'années se sont faites sur cette partie du public qui continue à lire les journaux, qui est donc le lectorat du Monde.
Donc vous partagez un éventail.
Le plus bel exemple étant Libération, d'ailleurs. Qui
vous mange des lecteurs.
Qui se manifeste sur le même lectorat que nous. Et à contrario, l'initiative la plus originale est celle d'Infomatin, qui cherche à inventer de nouveaux lecteurs, mais avec des...
C'est-à-dire qu'Infomatin, c'est un petit journal d'information qu'on peut lire dans le métro, qui vaut 3 francs.
3 francs et qui est fait au maximum de grosses brèves, quoi.
Mais André Laurence, vous dites que l'Infomatin cherche à inventer de nouveaux lecteurs. Vous croyez que c'est possible?
Eh bien, il l'a prouvé, peut-être pas suffisamment par rapport à ses objectifs, mais les enquêtes ont prouvé qu'il avait atteint des lecteurs qui ne lisaient plus de journaux. Parce qu'ils ne trouvaient pas, d'abord, ils ne trouvaient pas de journaux de presse populaire, qu'ils soient à leur portée, qu'on puisse feuilleter dans les organismes de transport. Infomatin est un journal de ville, typiquement, hein, de gens qui migrent le matin et le soir. Alors, il a inventé un lectorat, mais qui est encore assez trop réduit pour qu'il puisse prétendre être rentable.
C'est le lectorat des transports urbains.
Exactement.
Voilà, oui.
André Laurence, est-ce que le supplément du Monde est une locomotive pour certaines éditions du Monde? Moi, je pense que pour gagner le public, vous savez très bien qu'il y a des suppléments qui accrochent des publics spécifiques, que ce soit un public intéressé par l'économie, par la culture, par les programmes radio-TV. Alors, je me demande, par exemple, sur 6 jours de parution, quelle est l'édition du Monde qui se vend le mieux?
Celle qui se vend le mieux, le Monde, l'image du Monde est liée au travail. Alors celle qui se vend, le numéro de la semaine qui se vend le mieux a souvent été celui du lundi, qui est daté du mardi pour nous, mais parce que c'est le jour de la reprise du travail. Et c'est le jour où il y a le plus les annonceurs, par exemple, sont soucieux de placer leurs annonces ce jour-là, parce que les gens sont mobilisés, et le Monde, c'est... Et, sa volonté de ne pas être un journal de distraction fait qu'il est vécu comme un journal lié au travail. Alors les autres, il y a quand même des suppléments qui apportent, pour répondre à votre question plus précisément, qui sont des vraies locomotives. Le Monde des livres, par exemple, est une vraie locomotive. C'est presque une institution. Hein. Le Monde des spectacles aussi, parce que c'est un service en plus. Le Journal de fin de semaine avec les programmes de télévision, comme tous les journaux d'ailleurs qui publient des programmes de télévision, mais nous les publions à notre manière, avec un type de commentaire qui est approprié au Monde, aussi soutient la vente du numéro de fin de semaine.
Et alors le fait que Le Monde est un journal qui sort l'après-midi en France ne le déforce-t-il pas par rapport à d'autres quotidiens ? J'imagine que ce débat a déjà été...
Oui, c'est un débat qui est ancien. Alors c'est un journal qui sort l'après-midi à Paris et dans la région parisienne. Mmh. Qui arrive à être distribué grâce souvent au TGV, à quelques avions dans quelques villes de province là, en fin d'après-midi, et qui est un journal du matin pour le reste du pays et à l'étranger, bien sûr. Alors la question s'est posée de savoir s'il fallait changer cela. Il est vrai que en arrivant l'après-midi, nous sommes plus complets que les journaux qui ont paru le matin. Mais nous avons aussi le sentiment que tout ce que nous publions l'après-midi et que quelque originalité est aussi topillé par les journaux télévisés du soir même et que nous arrivons après eux, surtout en province. Bon, mais là, c'est un choix qui a été fait, un choix stratégique. Il n'est pas question d'y renoncer. Il est plutôt question de remonter l'heure pour paraître un peu plus tôt et avoir une durée de vente dans la journée un peu plus longue. Mais de rester un journal du soir fait un peu plus tôt le matin.
Martine Béguin à Genève, est-ce que Le Monde a résisté justement à cette progression de la télévision, à l'accélération qu'a imposée la télévision au niveau de l'information ?
Non, il n'a pas vraiment résisté parce qu'il n'était pas sûr qu'il faille vraiment y résister. Le Monde est un journal comme les autres et il baigne dans la société dont il est le reflet. Alors pour autant, même s'il subit cette pression, il essaie d'y introduire sa caractéristique principale qui est un certain recul par rapport à l'événement. Hein, un certain dans la vision de l'événement, dans la manière de le traiter, surtout de le faire commenter plutôt par des spécialistes. Il essaie d'introduire cette distanciation qui n'existe pas peut-être dans le traitement instantané de l'information partout ailleurs.
En Suisse, vous avez essayé de régler le problème de la crise en fusionnant les petits titres.
C'est ce qui s'est produit, oui. Il y a beaucoup de petits titres qui avaient fait des investissements très onéreux en matière de moyens techniques pour tenter de faire des journaux plus séduisants, mieux présentés. Et bien sûr, ça a été beaucoup trop coûteux. Donc, nombre d'entre eux ont choisi de fusionner pour utiliser les mêmes moyens techniques. Ils ont aussi créé parfois des pages communes. Il y a par exemple la Tribune de Genève qui a des pages communes avec le journal 24 heures qui, lui, se trouve à Lausanne. C'est le phénomène de manière globale. Et puis on observe aussi que les grands groupes de presse prennent de plus en plus d'importance et c'est assez menaçant, c'est assez inquiétant. Il y a par exemple le groupe Edipresse qui en Suisse romande gère 50% des tirages des quotidiens de la Suisse romande. C'est quand même impressionnant et inquiétant. À Genève par exemple, il n'y a plus que deux titres qui n'appartiennent pas à ce groupe. C'est le Journal de Genève, un journal de tradition et qui pendant longtemps s'est voulu un peu le petit frère du Monde. Et le journal Le Courrier, qui est un journal issu des églises au départ, mais qui a pris une coloration très à gauche, ce que les églises n'apprécient pas forcément et qui met en péril aujourd'hui ses sources de financement. Ceci dit, quand même, en Suisse, il faut bien voir qu'on est quand même dans une situation assez privilégiée. On a une densité de journaux qui est énorme, inégalée avec les pays scandinaves. Nous sommes devant l'Allemagne, devant l'Autriche, devant la France, devant l'Italie. Nous avons 2206 titres pour l'ensemble de la Suisse, bien sûr avec des petits tirages qui ne vont pas au-delà de 370 000 exemplaires pour le journal populaire de Suisse qui s'appelle Le Blick, mais la plupart des tirages aussi entre 60 et 150 000 exemplaires. Et puis ce qu'on a surtout observé, c'est la création de beaucoup de périodiques spécialisés au cours de ces dernières années ou de ces dernières décennies. C'est un petit peu la situation en Suisse romande. Mais j'aimerais savoir si en France vous avez aussi ce problème des moyens techniques extrêmement onéreux, du problème de la présentation, puisque vous allez adopter un nouveau visage, est-ce que c'est très coûteux d'adopter aujourd'hui une nouvelle image ?
Alors c'est très coûteux parce que pèse sur la presse écrite française le poids des coûts de fabrication liés à une tradition historique désormais qui fait que la corporation du livre a très bien défendu ses intérêts et qu'on est obligé de passer par elle et que c'est assez onéreux par rapport à d'autres coûts comparables dans d'autres pays. Alors cela étant, c'est ce qui a contribué d'ailleurs comme partout à des regroupements de journaux, à des disparitions, à des regroupements au profit de quelques grands groupes, à telle enseigne d'ailleurs qu'il a il a fallu légiférer pour limiter les appétits de certains et faire en sorte que le tiers ou la moitié du pays ne soit pas tenu par le même groupe.
Mais le Monde n'appartient pas à un de ces grands groupes.
Le Monde est un petit groupe, à lui-même, mais sans grande portée capitalistique.
Est-ce qu'on observe aussi en France une grande dépendance par rapport à la publicité? Parce qu'en Suisse, c'est assez important. La presse dépend à plus de 50% des recettes publicitaires.
Oh oui, c'est le cas aussi en France, et parfois même beaucoup plus. En précisant d'ailleurs que pour la moitié de ces recettes publicitaires, elles viennent d'annonces concernant le marché de l'emploi et non pas de publicité purement commerciale. Nous, notre point fort sont les annonces d'emploi, la publicité littéraire. Ce qui nous met évidemment, comme tous les autres journaux d'ailleurs en France, au premier plan des difficultés, dès lors qu'il y a une crise, les ressources publicitaires ont considérablement baissé Le Monde est en difficulté, comme le Figaro, comme tous les autres les magazines d'ailleurs, à cause de cela. Alors que les ventes, parallèlement, comme je le disais tout à l'heure, n'ont pas augmenté, au contraire, légèrement baissé.
Et malgré cela, vous lancez un nouveau produit?
Nous lançons un nouveau produit précisément pour essayer de trouver un nouveau souffle et de retrouver de nouveaux lecteurs. Nous pensons que Le Monde étant ce qu'il est et qu'il n'a pas l'intention de changer sur le fond, il s'adresse...
Il n'est pas en concurrence avec la télévision, parce que c'est un autre état d'esprit complètement, donc il n'y a pas de concurrence.
Mais là, le paradoxe, c'est que la progression du lectorat du Monde ne soit pas tout à fait en accord avec la montée de cette partie de la population qui est de plus en plus scolarisée, qui poursuit de plus en plus de longues études.
Alors votre approche, votre nouvelle approche, c'est quoi? C'est la dimension économique,
nous sommes partis pour faire une autre maquette, pour changer dans la présentation du Monde, qui a toujours changé dans le passé. Si on se reportait aux premières éditions du Monde, on s'apercevrait qu'elles sont très différentes de celles d'aujourd'hui. Alors nous avons toujours changé, mais là nous allons changer un peu plus notablement, avec des changements de forme qui traduisent des changements de fond, l'idée étant, avec le même esprit, la même rigueur, de coller un peu mieux au monde environnant, alors en donnant peut-être plus de place à l'économie dans l'appréciation des événements internationaux, alors que notre vision était peut-être un peu, parfois un peu trop diplomatique, en renforçant la partie du débat, de ce dont nous parlions tout à l'heure, le lieu de débat, il y en a distinguant assez nettement à l'intérieur du journal. En allant chercher
la vie des entreprises,
du côté de la vie des entreprises, et surtout des sujets de société qui ne sont peut-être pas mis en avant dans les médias grand public, parce qu'ils n'en ont ou pas les moyens, ou qu'ils ne disposent pas, comme on peut le faire dans un journal comme le nôtre, des divers collaborateurs, et des canaux, des filières de recherche que nous avons. Alors nous avons essayé d'exploiter tout cela à l'intérieur d'une nouvelle maquette.
Et au détriment de quel secteur?
Alors l'idée c'est pas tellement de sacrifier des secteurs, parce que les secteurs que nous occupons ce seront les mêmes. C'est plutôt de les traiter un peu différemment. Si je caricature un peu, je dirais que le Monde avait un découpage un peu vertical de l'actualité dans tous les domaines, et que à raison de ses spécialistes notamment, et qu'il va en faire une lecture un peu plus transversale, c'est-à-dire relier davantage les différentes approches. Par exemple, regarder l'environnement international en mêlant à la fois le diplomatique, l'économique, le stratégique et même le religieux, puisqu'on voit bien que c'est une dimension qui prend de l'importance à certains égards, et même des certains mouvements de culturels ou de société. Cette vision parfois un peu plus globale et un peu moins compartimentée que nous allons mettre en avant.
André Laurence, une dernière question. Dans la réputation du Monde, il y a un élément qui est très important, c'est l'information internationale tous azimuts. C'est le seul journal où on peut trouver des informations des quatre coins de la planète. Ça implique un réseau de correspondants très développé. Est-ce que vous pourrez continuer à le maintenir malgré les difficultés?
Alors c'est un des problèmes parce que ça coûte cher en raison de correspondant. Mais c'est le point fort du Monde. Alors en bonne stratégie, il vaut mieux renforcer ses points forts, surtout quand on a des difficultés, que risquer de les appauvrir. Je pense que ça restera un élément dominant de l'information dans le Monde.
Voilà, pour l'Ancien et le Nouveau Monde, merci beaucoup à vous, Bernard Gilbert, Philippe De Wolf et Martine Béguin et André Laurence, de nous avoir tenu compagnie pour cette presse écrite qui vit sa crise.
Cette émission a été diffusée le 21 décembre 1994 sur France Culture.